Libre, quel mot, plus qu'un mot, un désir, un état, un rêve, une résistance au-delà des poèmes et des devises républicaines. Être libre de voter, de parler, de s'aimer, de vivre, ne pas avoir peur, ne pas se cacher, marcher droit. Être soi-même et ne plus y penser, oublier qu'on est libre.
Pascal Paradou.
Avoir 20 ans à Moscou dans les années 2000 et être libre. Écouter Mylène Farmer, embrasser son amoureux, dire « je suis gay » et être joyeux. « Espèce dangereuse » est le premier roman de Sergueï Chikhalov qui raconte une décennie d'espoir. Bonjour Sergueï Chikhalov.
Bonjour Pascal.
Né à Moscou, vivant en France aujourd'hui, depuis un peu plus de 7 ans, quelle serait votre définition de la liberté aujourd'hui ?
La liberté aujourd'hui, c'est de... Il y a beaucoup de choses. Il y a... C'est avant tout pouvoir s'exprimer, quel que soit le sujet, sans craindre les poursuites et sans avoir peur d'avoir ce nuage de honte qui va planer sur vous éternellement.
Et à l'époque à Moscou, dans les années 2000, quand vous êtes un jeune homme là-bas ?
C'était un synonyme de l'espoir. Liberté voulait dire espoir, et espoir voulait dire liberté. Et c'était aussi quelque chose de surréaliste, parce qu'il y en avait trop. Et quand on puise trop de lumière, ça risque de nous aveugler. Donc effectivement, c'était une période assez aveuglante. Donc la liberté, c'était cécité joyeuse, heureuse.
Aujourd'hui, à Moscou, c'est fini ou ça continue ?
Il y a des libertés permises et il y a des libertés interdites. Vous êtes libre de vous avez des libertés dans certains domaines, sur certains sujets. Et puis, vous avez des libertés autorisées, c'est-à-dire que vous êtes libre de vous exprimer si votre avis... est aligné à la position officielle de l'État. Lorsque votre avis est légèrement différent, et surtout lorsque votre avis est beaucoup différent de celui qui est officiellement présenté comme le seul possible par l'État, vous n'avez pas cette liberté. Et donc ce sont des libertés interdites. Il faut les pratiquer chez soi, à huis clos.
Espèce dangereuse, donc votre roman est le récit à la fois précis et impressionniste d'un jeune homme qui veut être normal, mais qui, selon la loi, est considéré justement comme une espèce dangereuse. Racontez-moi.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'espèces dangereuses et souvent on fait des cumuls. On a la joie de... Et le privilège de se retrouver sur plusieurs listes à la fois, parce que souvent, quand on est espèce dangereuse, pour notre sexualité, pour nos avis, pour nos envies, pardon, pour notre prise de position politique ou autre, souvent, on cumule, on peut être sur plusieurs listes. Et effectivement, là, en tout cas, aujourd'hui, l'amour libre... C'est quelque chose qui peut être considéré comme néfaste à la prospérité des Russes et surtout quelque chose qui pourrait nuire aux valeurs traditionnelles. J'aimerais bien prendre ces deux mots entre guillemets parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire lorsque ça vient de la tribune officielle de l'État russe aujourd'hui. Les valeurs orthodoxales, les valeurs russes. Donc ça peut nuire au bien-être de la nation. Ça peut remettre en question la sécurité de l'État et de ses enfants et du patriotisme.
Il faut quand même nuancer ou en tout cas faire des séquences historiques dans cette question-là, Sergueï Chikhalov, parce que jusqu'en 1993, l'homosexualité, est condamnable, 5 ans de prison, c'est une des peines possibles. Elle est dépénalisée à partir de 1993, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'amour libre peut se pratiquer entre femmes, entre hommes. Et puis, il y a un tournant en 2013, avec une loi qui interdit la propagande. Et en fait, votre roman s'inscrit dans cette durée-là. 93-2013, c'est là où vous rêvez.
Oui, tout à fait, oui. C'était une vie heureuse parce que c'était la vie rêvée.
Et aujourd'hui, il y a eu un nouveau tour de vis,
oui,
puisque toute association LGBT est considérée comme extrémiste.
Oui, alors quelque chose qui s'appelle d'une manière tout à fait mystérieuse le mouvement international LGBT, qui n'a jamais eu de statut officiel juridique en Russie, a été reconnu comme extrémiste par la Cour suprême russe il y a quelques mois d'ici là, je crois. Et donc, toute prise de parole défendant les personnes homosexuelles ou transgenres, ou toute personne qui sort, si ce n'est qu'un tout petit peu, de la sexualité entre guillemets normale du point de vue de l'État russe, est considérée effectivement comme une activité extrémiste. Ouais.
Donc votre récit, votre roman raconte ces 10 années de rêve. Vous êtes un rêveur. Vous êtes un jeune homme qui vit aussi. Est-ce que vous êtes un militant à cette époque-là? Et écrivant ce roman aujourd'hui, est-ce que vous vous mettez dans la situation du militant?
Alors, à l'époque, pas du tout. Je n'étais pas du tout militant parce qu'effectivement, cet afflux de liberté surprenant et sidérant, en fait, nous a fait croire qu'on n'avait pas besoin d'être militant. En fait, on n'avait plus besoin d'être militant, que de toutes les manières, la Russie allait devenir un État démocratique avec tout ce qui va avec, en fait, les libertés, les droits, aussi les devoirs. Et on ne savait pas qu'on allait commencer à sucrer nos droits et nos libertés tout en nous rappelant nos devoirs, parce que les devoirs restent là. Donc, militant, non. Parce que je n'en ai jamais senti la nécessité. Et je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de Russes. Ils sont rarement militants. Peut-être parce que dans l'histoire russe, si on va un peu plus loin, vers ce que l'histoire appelle la révolution des bolcheviks, alors que c'était juste un coup d'État avec une prise de pouvoir de quelques bourgeois qui se sont fait passer pour des ouvriers. Je crois que ce n'est pas du tout dans la tradition russe d'être militant. Donc non, je n'étais pas militant.
Mais aujourd'hui, en écrivant ce livre, en regardant ce qui se passe...
Oui, aujourd'hui, Russie... je me dis, je suis très heureux, très fier d'apporter ma toute petite contribution à ce qui est fait par beaucoup d'autres personnes pour justement essayer de faire revenir cette Russie que l'on a connue dans les années 2000.
Se sentir... Vivant, c'est le refrain aussi de Petite Vallée, c'est un groupe français qui prépare un premier album et se dévoile avec ce titre, Vivant.
Je nous sentis en vie. Je veux nous sentir en vie, vibrer au son de nos corps qui s'inspirent. Exhalons la main de nos chaînes. Je veux nous sentir en vie,
petite vallée sur RFI, c'est l'émergence de la pop folk française. Vivant, voilà un mot qui vous va bien, Sergueï Chikhalov, puisque dans votre premier roman, vous racontez ce sentiment, ce vent de liberté que vous avez ressenti à Moscou dans les années 2000, alors que le pays semblait s'ouvrir au monde, à la consommation, à la normalité. Et votre bonheur, comme quoi le bonheur tient à peu de choses, c'était d'avoir des crèmes de luxe et un blouson de marque occidentale.
Oui, entre autres.
Et après, de pouvoir vivre comme on avait envie. Mais on voit dans ce livre-là l'arrivée des produits européens, de l'influence de l'Occident en Russie, alors qu'aujourd'hui, l'Occident est considéré comme vraiment le symbole de la décadence et de la dépravation.
Oui, bien sûr. En fait, il y en avait déjà, mais c'était devenu beaucoup plus accessible à tout le monde, surtout à Moscou et dans les grandes villes. Mais effectivement, il y avait beaucoup de partage, il y avait beaucoup de... Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'expositions culturelles, interculturelles, internationales. Je me souviens que je suis allé voir quand même une rétrospective des photographes Pierre et Gilles au Manège. En fait, c'est un grand centre d'exposition juste à côté du Kremlin. Et il y a eu d'autres expositions franco-russes ou juste françaises ou américaines. Et on avait l'impression qu'il y avait... cette ouverture vers le monde qui était très, très appréciée et voire encouragée.
Alors, dans votre roman Espèce dangereuse, Sergueï Chikhalov, il y a vous et puis il y a l'époque. Parce que vous racontez justement ce qui se passe à Moscou autour de vous. Et j'aime beaucoup la définition d'Annie Ernaux qui parle d'autobiographie de l'extérieur. Alors, elle ne parle pas de votre roman, elle parle de son œuvre quand elle parle d'autobiographie de l'extérieur. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept, cette définition, cette ambition de devoir raconter à la fois soi et le monde, mais de façon commune, conjointe, ensemble?
Oui, oui, tout à fait. Et merci beaucoup de citer Annie Ernaux. C'est une auteure que j'admire. Oui, d'ailleurs, je pense que j'aurais pas pu écrire ce livre dans une autre langue que la langue française, parce que la langue française nous offre ce très très beau pronom indéfini qui est on, et qui est à la fois un pronom impersonnel et très très personnel, et qui vous permet justement de créer un narrateur qui existe. Et qui reste un tout petit peu quand même dans l'ombre. Et moi, je trouvais ça, pour parler d'une époque qui était finalement très, très fugitive, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un narrateur qui reste fugitif, qui est là, mais qui reste discret, et qui se prononce en même temps, qui s'exprime. Donc, dans ce « on », effectivement, il y a beaucoup de « moi ».
Donc, il y a « je », mais vous ne le dites jamais.
Il y a « je », parce que... Enfin, il y a un peu de « je », parce qu'ils font dans ce « on ». Et c'est aussi ce pronom qui m'a permis de me sentir moins seul dans ce que j'ai raconté. Et c'est aussi ce « on » qui m'a permis de raconter la vie de ceux que j'ai connus et qui n'ont pas pu témoigner pour une raison... X ou Y. Parce qu'en fait, c'est pour ça que ce n'est pas un récit autobiographique, parce qu'au final, ma vie personnelle, mon parcours personnel n'est pas si intéressant que ça. Encore une fois, je n'ai jamais été militant, au sens propre du terme. Mais y a une partie de moi, bien sûr, dans mon roman, Espèce dangereuse, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres vies
Il y a le collectif. Oui. Il y a je et le collectif. Tout à fait, c'est ce que permet le pronom indéfini « on ». Sinon, et vous le racontez dans votre roman, Sergueï Chekhalov, vous êtes des bleus. C'est comme ça qu'on, c'est comme ça
en
qu'on
fait,
dit
c'est
en
le, oui, c'est le terme péjoratif pour dire, je ne sais pas si je peux le dire à la radio, pour désigner les homosexuels. Ouais.
On peut tout dire à la radio, presque.
Bon, ça veut dire PD.
Bleu.
Ouais.
Et ça se dit comment en russe ?
Golubui.
Mais c'est péjoratif.
Oui, c'est péjoratif, oui.
Vous faites une distinction entre ceux qui vous traitaient de bleu et les autres. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait ce que vous appelez les progressistes et les autres.
Oui. Alors, effectivement, au début des années 2000, il y a eu... de plus en plus de Russes ont eu l'occasion de voyager, d'aller parcourir le monde, de partir vers l'Europe, vers les États-Unis. Et en fait, ces citoyens ont vu que pour vivre dans une société progressiste, il fallait être un tout petit peu plus tolérant et tolérante. Et c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu modifié leur vocabulaire, leur façon de parler. Et par exemple, ils ont remplacé le mot « PD » ou « bleu » par « gay » ou « homo ». Mais ça, c'était entre guillemets les progressistes, donc ceux qui avaient eu l'occasion de voyager et qui ont fait cet effort linguistique. Après, effectivement, il y a eu tous les autres, beaucoup plus nombreux, qui n'avaient pas les moyens pour aller en Espagne ou en Italie ou en France ou aux États-Unis et qui continuaient à employer ce mot-là. Mais ce n'était pas du tout, en tout cas, c'est l'impression que ont les homos. Ont eu, parce que c'était pas du tout péjoratif. C'était juste une façon de nommer certaines choses et que dire que mon cousin il est bleu ou mon frère il est bleu, ça vous voulait pas dire que je le déteste. Voilà. Et effectivement, dans les années 2000, on a eu cette sensation que les homosexuels faisaient partie du reste de la société. De tous les groupes sociaux sans être dans la marge.
Et sans être stigmatisé particulièrement ou insulté.
Oui. Et pour les progressistes, effectivement, c'était presque indispensable d'avoir quelques amis homosexuels dans l'entourage pour appuyer leur côté progressiste.
Sergueï Chekhalov, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre. C'est le tout début, ça raconte justement ce sentiment de liberté.
Pendant une dizaine d'années, on a existé. Non pas comme avant, comme ces gentlemen habillés avec goût, classe, on dirait des étrangers, cheveux gominés, écharpe en cachemire nouée à l'italienne, des intellos aux grosses lunettes à monture en écaille, souliers en cuir, le dernier numéro du quotidien Pravda déplié entre des mains aux ongles soignés, assis sur un banc dans le square du théâtre Bolchoï, près de la fontaine enneigée. Non pas comme avant, ces hommes aux bonnes mœurs, ces hommes bien, feignant d'attendre un ami ou un collègue pour aller voir Gisèle depuis des places à visibilité réduite procurées par le parti en signe de reconnaissance pour les services rendus. Leurs regards furtifs balayant le square à la recherche de complices, de petits oiseaux peureux, des mésanges, qui accepteraient de venir se poser à leur côté. Pendant une dizaine d'années, on a existé.
Mylène Farmer sur RFI, vous avez le droit de danser, Sergueï Chekhalov, parce qu'elle est votre idole, elle est une icône à l'époque, le signe le plus visible de la liberté à Moscou et en Russie.
Oui, ouais. Oui, oui. Alors, sans être une icône de beaucoup de personnes homosexuelles, je sais, en France et dans le monde entier. Et elle est très, très appréciée par les Russes, elle est adorée par les Russes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'il y avait des clips de Mylène Farmer qui ne passaient pas à la télé française et à l'inverse, qui étaient tout à fait diffusés et diffusables à la télé russe.
Mais votre roman se raconte entre deux de ces concerts, finalement, celui de 2000 et celui de 2009.
Oui, tout
entre
à
Moscou
fait,
et Saint-Pétersbourg, je ne sais plus dans quel sens elle...
Fait. Non, elle a fait les deux, oui.
Elle fait les deux. Et vous êtes, à cette période, convaincu, ce que vous racontiez à l'instant, qu'il n'y a pas d'homophobie en Russie.
Tout à fait, oui. L'impression que beaucoup de gens ont eue, comme moi. Oui.
Avec plein d'exemples, vous nous racontez plein d'exemples.
Oui.
En 2003, par exemple, un couple de filles va représenter la Russie à l'Eurovision.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est le premier groupe russe qui est devenu connu à l'international. C'est le groupe Tattoo. Donc avec leur tube All the Things She Said, je crois qu'il est passé un peu partout en Europe. Et effectivement, on voyait le clip où il y avait deux collégiennes, enfin lycéennes plutôt, qui s'embrassaient sur la bouche. Et le clip passait à tous les moments à la télé et tout le monde était fasciné par le groupe Tattoo. Et sauf que quelques années plus tard, on aura appris que c'était de fausses lesbiennes et en plus homophobes.
De même qu'il y a un journaliste qui fait son coming out à la télévision, il s'appelle Anton Krasovski, et il dit, voilà, je suis homosexuel, à une heure de grande écoute, et ça pose a priori aucun problème. Il a très mal tourné depuis.
Oui, et même, enfin, ça a posé problème parce qu'il a été limogé de sa chaîne à l'époque, mais il a été soutenu par beaucoup de Russes. Qui ont dit que bon, voilà, bah, il a bien fait, il est courageux, il a fait ça pour protester justement contre la première loi homophobe passée en 2012, je crois, à Saint-Pétersbourg, et après passée sur le niveau fédéral en 2013. Oui, effectivement, depuis, je crois qu'il a pris quelques substances. Oui.
En tout cas, il suggère de noyer tous les Ukrainiens.
Entre autres.
Ce qui est quand même une position assez.
Des enfants ukrainiens
radicale,
qui refusent de parler russe. Oui.
C'est une société folle de liberté, écrivez-vous, Sergueï Chikhalov, qui a, du coup, accepté d'être lobotomisée. Vous vous êtes auto-lobotomisée, dites-vous, dans ce roman.
Mmh. Oui, oui, mais je crois que lorsqu'on parle de... C'est surtout en parlant des aspirations politiques des Russes que j'ai employé ce terme. Effectivement, je trouve que les Russes, en tout cas les Russes que je connais... dans leur majorité, ont très très peu de convictions politiques. C'est pour ça que là, aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui reprochent aux Russes de ne pas sortir dans les rues, de ne pas prendre des positions citoyennes plus fortes. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils savent faire. En tout cas, moi, quand j'ai grandi, quand j'allais au collège, quand j'allais au lycée, on m'a toujours fait comprendre qu'il valait mieux se tenir loin des affaires politiques.
Mais il y avait quand même du monde pour les obsèques d'Andrei Navalny.
Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Toute cette foule qui est sortie pour suivre le cortège funèbre de Navalny. Mais il y a aussi beaucoup de ceux qui n'ont pas osé sortir dans les rues. Et encore, la Russie d'aujourd'hui, comment dire, l'état de la société civile aujourd'hui, toute cette privation de liberté, c'est quand même pas comparable avec l'époque que je décris. Et il y avait déjà certaines libertés qui avaient été sucrées, mais là, aujourd'hui, les gens vivent dans la peur, et dans la peur de s'exprimer, de dire quelque chose, d'écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, sans parler du fait de sortir dans les rues.
Alors, on a évoqué Navalny. À l'époque, dans ces années 2000, un nom incarnait l'opposition au régime, c'était la journaliste, Anna Politkovskaya.
Ну, вы знаете, на эту тему я уже даже не размышляю, потому что, конечно, вообще ни о какой безопасности речи нет.
Vous savez, j'y pense plus maintenant, parce que c'est pas la peine d'y penser tout le temps. Je sais, il faut que je vive avec ça.
Отсутствие безопасности. Это ясно уже на сегодняшний день. С этим просто надо жить. Надо понимать, что это так.
Le visage ouvert, les yeux ouverts.
Не было таких условий.
Et que je sache que je suis effectivement dans une situation d'insécurité.
Oh, вы vous знаете, я думаю, что в результате...
Mais je pense que de toute façon, ce sont des personnes comme nous, par exemple à la rédaction, au journal. Évidemment, on n'est pas omnipotent.
Выйдем из этого всего, что опять гвозди бы делать из этих людей.
On va quand même réussir à avancer, comme disait le poète, гвозди.
Гвозди бы делать из этих людей, то есть мы из железа.
On est fait de clous, on est fait de fer.
Anna Politkovskaya, c'était sur RFI au micro de Daniel Zezeskel en 2005. Elle est assassinée un an après, le 7 octobre 2006. Est-ce que les clous et le fer ont servi à quelque chose, Sergueï Chekhalov?
Je crois que ça... oui, je crois que Anna Politkovskaya et puis toute une génération, une nouvelle génération de journalistes qu'elle a inspirée. Je crois qu'il continue à faire beaucoup de bien aux Russes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, tout comme Alexei Navalny, qui reste vivant malgré son décès et qui donne beaucoup d'espoir aux Russes d'avoir un pays libre et heureux et où tout le monde se sentira heureux.
Vous, vous avez fait le choix de partir. Vous racontez dans le roman « Espèce dangereuse », vous partez dans un premier temps aux États-Unis pour faire un stage dans une université, et puis ensuite vous arrivez en France. Et vous dites d'ailleurs que être bilingue, c'était un gage de liberté. Il vous fallait absolument maîtriser une autre langue, justement pour pouvoir aller dans le monde, aller à l'extérieur, pouvoir sortir, même si vous étiez formidablement bien, d'une certaine façon, là-bas. Enfin, formidablement, vous y étiez bien, vous y croyiez, vous y rêviez. Et il y a donc la France. Pourquoi vous avez choisi la France?
Alors, moi, effectivement, comparé à certains de mes narrateurs, mais je dis mes narrateurs parce qu'il y en a plusieurs, je m'en suis plutôt bien sorti. Je pense que j'ai toujours été amoureux par la France. J'ai toujours été amoureux de la France, j'ai toujours été passionné par la langue française. Je crois que j'en ai fait ma carapace hein, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je ferais si demain j'étais privé de ma capacité à m'exprimer en français à l'écrit, à l'oral. Je pense que je deviendrais fou.
Vous dites raconter son passé dans une langue étrangère, c'est-à-dire pour vous le français, est l'une des meilleures façons de maîtriser le sentiment de honte.
Oui. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive à articuler mes idées, mes propos, surtout à l'écrit, en français, sans toute censure, sans aucun tabou, sans aucun filtre. Et ça me fait beaucoup de bien de faire ça. Et c'est quelque chose qui m'a sauvé, je pense, à un moment donné de ma vie. Quand on a l'impression d'être tout seul, et puis... Quand on a l'impression d'être mal compris ou incompris, on passe tout de suite en français, même avec soi-même, et on s'en sort.
Dans la dédicace que vous avez faite de votre roman, vous écrivez « De la Russie que j'ai connue, qu'en reste-t-il ? Au moins, ce livre. » Merci Sergueï Chekhalov, « Espèce dangereuse », donc votre premier roman est édité au Seuil. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et sur le site rfi.fr. Et nous, demain, à ce micro.